Écosystème, Florence Farion.
Comme disait Pierre alias Thierry l'Ermite dans Le Père Noël est une ordure, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, Thérèse, elle est gentille. C'est une réplique culte qui n'a pas échappé à notre invité. Il la cite en exemple pour dire combien on malmène la gentillesse. Gentil, c'est presque un gros mot pour désigner le ravi de la crèche, le naïf qui dit jamais non, au risque de se faire plumer, se faire rouler dans la farine. Entre bon et con, il n'y a qu'une latte de différence, on dit aussi. Alors oui, on pourrait en rester là, se cabrer quand on vous traite de gentil, ou le prendre du côté positif et même revendiquer cet adjectif. « Je suis gentil et j'aime ça », semble dire notre invité. Quoique, il fait l'éloge de la gentillesse, mais je ne sais pas s'il en a un échantillon sur lui. On va tout de suite se renseigner. Bienvenue, c'est Écosystème jusqu'à 14h sur la première. Avez-vous, Emmanuel Jafflin, un échantillon de gentillesse sur vous ?
Oh, je suis déjà suspect. En tout cas, c'est bien lancé l'émission avec Thierry l'Ermite. C'est vrai que je la cite beaucoup et que c'est une scène mémorable. Et en même temps, ça ne prend une marque que sur le sens négatif du mot. C'est-à-dire gentil, comme vous l'avez dit, c'est mièvre, c'est crétin, c'est crédule. Et il y a un sens noble. Et moi, chère Florence, je vous proclame gente dame par votre douceur, par votre compréhension, par votre empathie.
J'essaie.
Et ça, c'est le sens positif du mot que je voudrais remettre en exergue sans me référer forcément à la noblesse aristocratique. Hein. Moi, j'oppose justement la noblesse de naissance à la noblesse de l'essence. C'est-à-dire qu'une essence morale, une essence psychologique, une essence empathique. Ce qui nous élève, c'est ce qui nous met en relation avec l'autre.
Eh ben, vous êtes dans une émission qui s'appelle Écosystème, vous savez.
Hein. Ah ben, je suis bien tombé.
Le lien aux autres. Vous présentez en quelques mots philosophe, enseignant, ancien diplomate. Vous avez mené plusieurs vies, car la philosophie mène à tout, même à la diplomatie. Vous avez écrit de nombreux livres. Vraiment, ce sujet de la gentillesse vous habite. Je me demandais d'ailleurs, quand on est diplomate, il faut forcément être gentil.
C'est une bonne question, mais c'est une erreur de parcours, la diplomatie. Et
ah bon.
J'en suis sorti au bout d'une décennie.
Ah oui, non, mais c'est pas mal quand même.
Mais c'est vrai que le mot a un sens. Hein. Être diplomate dans la vie, ça veut dire arrondir les angles, ça veut dire trouver une solution sans passer par le conflit. Malheureusement, moi j'ai fait une expérience dans la diplomatie qui m'en a guéri professionnellement. Et je suis revenu à mes ouailles, c'est-à-dire au concept et en arrière-fond à la sagesse. Ce que je trouvais pas justement dans la diplomatie, qui est aussi un monde du cynisme, de l'hypocrisie, de la tartufferie, et je suis très content d'être revenu sur mes bases.
Alors, je vais citer quelques livres. Éloge de la gentillesse, Petit éloge de la gentillesse, Petit cahier d'exercice de la gentillesse paru aux éditions Jouvence, et aussi un autre sur lequel on viendra peut-être à la fin de l'émission, L'apologie de la punition, que vous avez aussi écrit.
Ah oui, pour les gens c'est le contraire, et je vous cache pas, chère Florence, que j'ai perdu des lecteurs quand je suis passé de la gentillesse à la punition. Même si je pensais travailler sur la punition avant la gentillesse. Mais en réalité, je vais donner, puisqu'il faut démarrer l'émission, une simple définition de la gentillesse, puisque j'ai rappelé...
J'aime bien vous faire, je vous laisse les clés en fait, je vais aller boire un café.
Vous êtes gentil, moi je savoure celui que vous m'avez gentiment servi. Mais la gentillesse, c'est simplement rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Moi je vous ai demandé un café, vous me l'avez servi, donc vous êtes gentille. Et la punition, c'est l'équilibre. Punir, c'est rendre service à quelqu'un qui ne vous le demande pas. Et donc, il y a une harmonie, il y a une symbiose entre ces deux opposés sur le même spectre, sur la même ligne, et entre les deux, il y a de l'amour. Dans les deux cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour de l'humanité quand on rend service à un inconnu dans la rue, et il y a de l'amour de son enfant, de son élève, de quelqu'un qu'on punit dans la société parce qu'il a commis un délit ou un crime, parce que justement, on veut pas... Moi, je suis pour la fermeture des prisons, par exemple. Mais les gens sont pas allés jusque-là, ils se sont dit, le type est schizophrène, et il écrit 4 livres sur la gentillesse, 1 sur la punition. En réalité, non, c'est dans des circonstances différentes le même acte d'amour qui doit s'opérer. Donc je répète, être gentil c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande et punir c'est rendre service à quelqu'un qui ne vous le demande pas. Donc c'est pas une erreur de parcours et de casting, mon apologie de la punition. C'est une systématicité qu'en général les philosophes aiment bien.
Alors, Emmanuel Jafflin, nous avons une heure pour essayer de parler de gentillesse, de la définir, de voir aussi comment elle peut nous relier aux autres, puisque c'est vraiment aussi le thème de cette émission et c'est vraiment la substantifique moelle de la gentillesse. Tout de suite derrière gentillesse, je mets un mot qui est celui de sincérité. La gentillesse est sincère, doit être sincère, Emmanuel Jafflin, sinon elle n'est pas gentille.
C'est une question de bac. Alors, je suis pas un fan de la sincérité. D'ailleurs, mes élèves ont ça comme sujet souvent. Faut-il être sincère ?
Non, mais c'est-à-dire que la gentillesse, pardon, mais la gentillesse, c'est quelque chose que l'on fait sans intérêt. Mais, la non, vraie mais, gentillesse.
Je suis tout à fait d'accord, mais la sincérité, elle n'est pas un gage de vérité. Lisez Platon, Lippias Mineur, très beau petit dialogue d'un Platon jeune qui explique que le sincère peut être complètement dans l'erreur et le menteur lui est supérieur parce que pour mentir, il faut connaître la vérité. Alors que pour être sincère, il n'y a pas besoin. C'est une adhésion de ses pensées avec soi-même et de son discours. Donc on peut être sincère et totalement dans l'erreur. Alors que le menteur, pour pouvoir nous tromper, il est obligé de la connaître, la vérité. Donc je calerai pas la gentillesse sur la sincérité. Je la calerai sur autre chose qui est plus profond, qui est plus subtil, c'est l'amour. C'est peut-être l'amour de soi, mais on va découvrir quand on discute de la gentillesse que le soi, c'est une fiction, c'est une construction culturelle qui n'existe pas dans toutes les sociétés. Et quand on prend le goût d'aimer les autres, quand on a le goût des autres et quand on le découvre au creux de la gentillesse qu'on pratique, on se détache de soi très vite.
Pour mettre quoi? Les autres en avant, les autres devant, pour leur laisser plus de place?
Eh ben, justement, ce que vous avez peut-être intentionnellement, avec votre intelligence émotionnelle, choisi comme titre de l'émission, pour créer du lien. Moi, je dis que dans la gentillesse, si on suit cette étape, après je reviendrai à sa définition, mais il y a trois niveaux. Le premier niveau qu'on découvre, si par exemple, chaque auditeur là qui nous écoute fait ce soir, avant de s'endormir, un petit point sur la journée, est-ce qu'il y a eu des circonstances dans lesquelles il a été gentil, il va découvrir qu'il est un tisserand, qu'il a un métier à tisser. C'est qu'au fond, quelqu'un dans la rue vous arrête en disant « Vous savez pas où est la rue Félix, l'avenue Félix Faure ?» Et la personne lui dit « Si, si, c'est la deuxième à droite, la quatrième à gauche, la cinquième à droite. » Et après, vous redemandez à quelqu'un d'autre. Vous êtes cuit. Mais la personne qui vous a donné le renseignement, si elle m'a écouté et si ce soir elle s'endort, elle se dit « Ah bah oui, j'ai été gentil aujourd'hui, j'ai rendu ce service à cette personne que je connaissais pas, que j'ai rendu à la vie et à l'anonymat. Mais et quelque part, je suis un tisserand, un métier à tisser. » Ça, c'est le premier niveau. Je tisse du lien quand je suis gentil. Le deuxième niveau, c'est le goût des autres. C'est-à-dire que je découvre en moi une force, une puissance qui n'a rien à voir avec l'ego, justement. Vous savez, il y a un prêtre italien qui était psychologue aussi, qui s'appelait, je sais plus, Tony Anatrella, et qui a inventé ce concept de tout à l'ego. Dans notre société, tout revient à nous maintenant. On a l'impression que le centre du monde, déjà la Terre, on avait compris avec Galilée que c'était pas le cas, mais on a l'impression que c'est nous. Et quand vous ouvrez votre ordinateur, là j'en vois pas sur la table du plateau, c'est plutôt salutaire.
Non, oui, il n'y en a pas.
Mais vous avez votre email, vous avez vos pages, et vous avez des cookies qui vous ont espionné toute la nuit et toute la journée et qui vous montrent que vous êtes le centre du monde. Et dans la gentillesse, vous faites l'expérience inverse. C'est-à-dire que quelque part, vous vous videz de vous pour justement tisser ce lien. Et quand vous avez le goût des autres, vous comprenez que ce qui est intéressant, c'est ce lien, que vous vous détachez de votre ego. Il y a le film d'Agnès Jaoui, hein, Le goût des autres, qui est un film magnifique, où chacun a des problèmes très compliqués, et l'autre est tellement impliqué dans ses affaires qu'il a quand même suffisamment d'empathie pour écouter l'autre. Et je trouve que c'est ça le deuxième niveau. Et on donne de soi. Vous savez, vous m'avez demandé tout à l'heure si j'étais prêt à parler de la méchanceté. Si même j'étais méchant, mais j'ai déjà été diplomate, c'est déjà une première perversion. Mais la méchanceté, ça vient du vieux François. C'est pas du tout latin. Méchant, ça vient de méchoir. M-E-S, plus loin, C-H-E-O-I-R. Et choir, c'est tomber. Donc le méchant, c'est quelqu'un qui tombe mal. Mais avant de mal tomber, c'est quelqu'un qui fait tomber les autres et qui finit par tomber lui-même. Et alors, la question que je me pose, c'est pourquoi le méchant fait tomber? Parce qu'il est vide. Ce qui caractérise le méchant, c'est qu'il est habité par la vacuité. Et donc, qu'est-ce qu'il fait pour combler la vacuité? Il remplit. Donc, il prend chez les autres des tas de choses. Donc, c'est un prédateur. Donc, le prédateur est quelqu'un de vide. Du coup, vous en déduisez que le gentil, c'est un donateur, c'est quelqu'un de plein. Et je découvre ça dans la gentillesse. Si j'y prends goût, si je découvre que le moi, c'est une fiction, que je vais pas passer ma vie à la gagner et à m'obséder sur le fait de prendre, je découvre que dans ce pouvoir de donner, non seulement je tisse du lien, non seulement j'ai le goût des autres, le moi n'existe pas, mais j'ai une vraie force spirituelle qui est la vraie noblesse de l'âme. Et le troisième niveau, c'est celui qui, après s'être endormi, se réveille le matin en se disant « j'ai compris, le cœur de la vie, l'essence de la vie, c'est de donner, celui-là donne tout le temps. » Et là, on passe du gentil au saint. S-I-N-T. Le saint, celui qui donne tout le temps.
L'auréole, tout ça.
Ouais, un jour, j'étais à un salon du livre avec un... Et puis à côté de moi, il y avait un ancien trader qui était devenu moine dans les quartiers nord de Marseille. Et je lui dis, comment t'es passé là? Il me dit, parce que j'étais fatigué de prendre. J'avais envie de donner. Et je crois qu'il est là, le secret. Et au moins, quand on est gentil, on donne ponctuellement, on donne partiellement, mais c'est la vraie richesse et c'est la vraie force. Ceux qui donnent pas pendant une journée, il faut faire un petit récapitulatif, cher auditeur, mais si tu n'as pas donné depuis 3-4 jours, c'est symptomatique, là, il faut se soigner très vite et sortir dans la rue pour aider quelqu'un.
Mais j'en viens à cette question, c'est-à-dire que je vous entends et je pense à cette phrase, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. On peut être gentil tout le temps, mais pas avec n'importe qui aussi. Ou on peut toujours être gentil.
Mais c'est une très bonne question. Je vois que vous m'avez lu. En fait,
alors, j'essaye quand même. Hein.
J'ai dit que la gentillesse, c'était le fait de rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Mais je dis aussi que c'est une morale impressionniste. Vous savez, je m'inspire de ce courant pictural, Monet, Manet, Renoir, musical de Bussy, Ravel, Forêt, ouais, et la mère de Debussy, Proust. Une odeur de Madeleine et le type reste sur son lit à écrire, et il est à la recherche de quelque chose. Bergson en philosophie. La gentillesse, c'est une petite touche aussi. Donc c'est pas systématique. Mais en même temps, je dis que c'est une morale impressionniste parce que on doit pas être toujours gentil. Il y a des moments où il faut ne pas l'être, et je dis que c'est une morale du pouvoir, c'est pas une morale du devoir. Les grandes morales, moi celles que j'enseigne en tant que philosophe, hein, que ce soit Platon, Aristote, Épictète, Épicure, sont des morales du devoir. C'est-à-dire que celui qui veut être sage ou celui qui veut être un bon religieux...
Il n'a pas le choix.
Non, il est obligé, par exemple le chrétien, du matin au soir et du baptême à l'extrême onction, d'appliquer la loi, qui est la loi de l'amour, mais quand même d'appliquer la loi. L'impressionnisme,
c'est choisi.
Point par point. Je vais prendre un exemple. Un jour, c'est une lectrice qui m'a écrit ça. Elle était caissière dans un supermarché, très ponctuelle. Et un jour, il y a une grève, ce qui est quand même assez fréquent en France. Et
elle
sort en retard du métro. Et là, il y a un touriste qui lui dit « Excuse me, sir, could you give me the way to go to the Eiffel Tower ?» Et elle lui répond dans un franglais « Sorry, monsieur, mais demandez à quelqu'un d'autre, j'ai pas le temps. » Honnêtement, elle avait pas cassé le vase de Soissons. Et le type est pas en perdition. On n'est pas secouriste, la personne n'est pas en danger de mort. Donc, il y a des moments où il faut privilégier, non pas son intérêt propre, mais une autre urgence qui peut d'ailleurs être une urgence plus grave que le touriste, pour aller lui rendre service ou se rendre service à soi-même. Donc c'est une morale du pouvoir, c'est quand je veux, quand je peux être gentil, mais surtout pas quand je dois. D'où ma morale impressionniste.
Emmanuel Jafflin, on va revenir vraiment sur tous ces chapitres, parce qu'on a déjà ouvert plein de portes. On va continuer à pénétrer dans la gentillesse avec un bonheur sans nom, puisque cela fait l'essence de l'humanité. Ça va très bien avec le titre de cette émission. Ego système, ce sera après Vianney. Vianney, le délicieux Vianney, avec Dumbo, extrait de son nouvel album.
Maman m'a dit qu'elle écoutait souvent du Stevie Wonder quand elle attendait gentiment que je vienne au monde. Je suis venu sachant qu'on ne voit vraiment jamais, non jamais, si bien qu'avec le cœur. On passe nos vies à compter tout ce que l'on n'a pas, en mettant parfois nos foies dans le plus gris des états. On oublie qu'on est bien que de l'intérieur, ça n'enlève pas les pleurs. Mais moi, je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois, étant aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime soi. Les oiseaux les plus bruyants, les plus coucou, je suis là, ne sont pas les plus aimants, enfin ça dépend, je crois. La place que l'on prend ne dit jamais bien si l'on est heureux de ce que l'on devient. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Oh. Un éléphant roi se trompe parfois et pense aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime soi. Que soit. qu'aime les hommes qui ne s'aiment pas. Je me suis souvent demandé ce qu'aiment les hommes qui ne s'aiment pas. Moi je m'envole, je m'en vais. Je garde mes tempos, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime. Soit un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime. Soit
Emmanuel Jafflin, éloge de la gentillesse, petit éloge de la gentillesse, petit carnet d'exercice de la gentillesse. Ça, c'est aux éditions Jouvence des éditions.
Et éloge de la gentillesse à l'entreprise, j'en ai commis quatre.
Ah, encore, l'entreprise,
oui, chez
on
First.
Y reviendra aussi, parce que vous avez même osé parler de la gentillesse en entreprise. On dira plus tout à l'heure. Mais la question, c'est quand on vous entend parler de la gentillesse, on se dit c'est une sorte de ça va de soi, mais bien sûr que le monde irait mieux. Pourquoi, Emmanuel Jafflin, est-ce que c'est un sujet de moquerie? À ce point-là.
Alors, il faut que je revienne à l'étymologie. Hein. Au départ, gentil, ça vient du latin gentilis, qui veut dire noble. Donc, celui qui est bien né, celui qui, en théorie et en fiction, dans la mythologie romaine, est issu des 100 familles qui fondèrent Rome. Et donc, le gentil, c'est un noble. Et celui qui appartient pas à la noblesse, c'est l'ignoble. Donc, il y a deux classes. Et le gentil est donc très positif. Et c'est ce sens-là qu'on a gardé implicitement, sans y penser, quand on utilise positivement le terme. Si vous tenez la porte à quelqu'un dans le métro, qui vous regarde dans les yeux en disant « merci, c'est gentil », c'est que vous avez été noble dans ce petit geste. Et puis, il y a une deuxième origine qui est chrétienne, qui est religieuse. C'est que les chrétiens, c'est une secte qui se détache d'une autre religion, le judaïsme. Et ils sont très jaloux parce que en hébreu, il y a un mot pour désigner ceux qui ne sont pas juifs, c'est le mot goy. Et les chrétiens, ils veulent leur mot aussi. Et comme le mot gentilis, petit à petit, perd de son sens, se désagrège et désigne aussi bien le noble que l'esclave, aussi bien le romain que les nations qui sont conquises et par la République et ensuite par l'Empire, le terme veut plus rien dire et les chrétiens vont revaloriser ce mot et vont désigner par gentil celui qui n'est pas chrétien, c'est-à-dire l'impie. Donc on a les deux sens du mot. Rappelez-vous, Florence, que Saint Paul, c'est l'apôtre des gentils. C'est-à-dire que Saint Paul n'est ni méchant ni gentil. Il est celui qui va à la recherche des païens, surtout pour les convertir au christianisme. Ce qui caractérise le christianisme comme l'islam, c'est le prosélytisme. À la différence des juifs, si vous n'êtes pas juif, c'est pas grave, mais ils sont pas là pour vous convertir. Donc on a les deux sens du mot là. Gentil, le sens positif c'est noble, et le sens négatif c'est pas ignoble, c'est impie, c'est mécréant, c'est le mauvais croyant. Saint Thomas écrit la somme contre les gentils, et puis Benoît XVI, qui n'est pas suisse, qui était allemand, et il est toujours allemand d'ailleurs, a voulu faire en 2011 en France...
Un parvis des gentils.
Un parvis des gentils.
Oui.
Ça m'avait énervé parce que je me suis dit, je suis pas lu par le pape, c'est quand même une erreur de casting qui est pas très gentille. Mais ça a pas marché d'ailleurs cette affaire, mais l'idée, c'était de réunir, à l'image du Temple de Jérusalem, autour de l'Église, des non-chrétiens pour discuter de la foi de manière œcuménique. Mais il y avait quand même du prosélytisme derrière. Et les chrétiens ont gardé ce sens négatif du mot. Quand vous allez à la messe le dimanche, vous entendez le mot gentil régulièrement au cours de l'office. Donc le gentil, c'est redevenu un sens négatif qu'il faut tirer de cette mélasse pour le ramener à la noblesse. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pas une noblesse de naissance, mais une noblesse d'essence, des apostrophes, une noblesse d'aisance, une noblesse de légèreté, une noblesse impressionniste, mais une noblesse qui tisse du lien dans la rue, dans l'anonymat, là où il y a de l'altérité. Je dis que c'est une forme d'empathie, la gentillesse, mais je la distingue de deux autres notions qui sont voisines, qui sont le respect et la sollicitude. Le respect, c'est ce que j'appelle une empathie froide. C'est par exemple de laisser libre la place de parking qui est réservée à un handicapé. Vous êtes plein de respect, mais en même temps, vous laissez la personne se débrouiller, à se garer, à sortir son fauteuil, par exemple, etc. Et à l'autre bout du spectre de l'empathie, il y a ce que j'appelle l'empathie brûlante, qui est la sollicitude.
Et qui va mettre au-delà, qui va même au-delà de ce qu'on pourrait attendre.
Ben oui, complètement. Quand vous rendez service à quelqu'un qui vous a rien demandé, vous êtes dans la sollicitude. C'est Amélie Poulain. Elle espionne ses voisins, elle essaye de les aider à réaliser leurs désirs sans qu'ils le sachent, etc. Jusqu'à temps que le jeune homme au mobilette bleu qui travaille dans les photomatons tombe amoureux d'elle et qu'elle revienne un peu vers elle et qu'elle délaisse ce terrain-là. Et moi, je dis, la sollicitude, son domaine, c'est ni la rue, ni l'entreprise, ni l'école. Il faut pas qu'il y ait de l'altérité, il faut au contraire qu'il y ait de l'identité, de l'ADN. Et son terrain d'élection, c'est la famille. C'est-à-dire que dans la famille, je suis plein de sollicitude. Moi qui suis père de famille, par exemple, je dis à une de mes filles, Héloïse, aujourd'hui fait froid, mets ta doudoune. Et elle va le faire pour me faire plaisir, mais parce que je veux éviter qu'elle soit malade le lendemain, qu'on appelle le médecin, qu'elle rate les cours, etc. Donc j'ai une vision globale pour la famille. Et là, je suis très intrusif. Elle voulait pas mettre sa doudoune, mais elle l'a mis. Là, c'est l'intrusion du père. Et on peut pas être intrusif dans la rue. Et un jour, je sortais d'un plateau et j'étais plein de mon ego et je prends le RER à Châtelet-Léal, vous voyez où c'est. Mm-hmm. C'est très, la plus grande station, c'est plein de monde. Et je vois un aveugle avec sa canne qui tâtonne le sol.
Donc, je lui dis qu'il va se perdre.
Je lui embarque le bras, il met un coup de coude dans le plexus en me disant c'est bon, je connais le chemin. J'étais plein de sollicitude. Il m'avait rien demandé, le garçon. Et il avait bien raison d'agir comme ça. Donc, entre les deux, il y a l'empathie chaude qui est la gentillesse. Il y a une demande qui est pas forcément verbal, qui peut être une demande du corps. Par exemple, un autre exemple dans le métro, je vois une vieille dame à dents fer où il y a plein d'escaliers mécaniques, qui a posé ses deux valises par terre avant l'escalier qui monte, et qui attendait que quelqu'un l'aide. La demande, elle venait du corps, elle venait pas de la parole. Mais c'est important, donc je suis passé devant elle, je lui dis, vous voulez que je vous aide? Elle me dit, oui, je veux bien. J'ai monté les deux valises, et là, elle m'a dit, merci, vous êtes gentil, et là, c'était pas, vous êtes crédule, vous êtes naïf, vous êtes mièvre, mais quelque part, vous êtes noble de m'avoir aidé sur ce bout de chemin. C'est ça, la gentillesse. Il faut de l'altérité. Il faut de la rue, il faut de l'anonymat. Ça marche aussi dans l'entreprise parce que c'est pas une famille.
Et il faut aussi une sensibilité, une capacité aussi à percevoir l'autre et ses besoins. On parlait la semaine dernière de l'intelligence émotionnelle avec Christophe Hague. On est dans cette intelligence émotionnelle.
Mais complètement. Il y a deux formes d'intelligence. Vous savez, moi je dis, la gentillesse c'est une libido suavitatis, c'est-à-dire j'aime la suavité, j'aime la douceur, et c'est anti-cartésien possible. Descartes avec son fameux cogito dubito. Cogito ergo sum, je doute. Plus je doute que je pense, plus je pense que je pense, et plus je pense que je pense, plus je suis. Donc il fait de l'ego le centre du monde et le fondement de la science. Et moi je dis au contraire, dans la gentillesse, on fait une expérience qui est radicalement autre, on fait l'expérience de l'altérité. On découvre l'autre, mais on découvre l'altérité en soi, et c'est ce lien-là qui va nous permettre de tisser des liens et de déposer dans la relation un humus, une humanitas et un humanisme qui est... Vous savez, vous connaissez la date de la gentillesse, Florence, en France?
La date de la... Oui, c'est au mois de novembre, mais j'ai plus la date
exacte.
C'est le
13.
C'est le 13.
Et le 13, il s'est passé l'attentat à Paris, au Stade de France, dans le 11e arrondissement et au Bataclan. Et donc, on a voulu changer...
Pour la journée de la gentillesse.
Et oui, on a changé la journée de la gentillesse à cause de ça. Et je dis, c'est dommage, parce qu'il faut que vous compreniez que tout ce qui s'est passé à Paris, c'était évidemment des terroristes, c'était des gens déments, qui étaient sous influence, sous drogue, sous tout ce qu'on veut. Mais ce qui s'est passé au sortir du Bataclan, les gens qui ont réussi à se sauver et qui avaient laissé leur téléphone, leur portable, quand ils sont sortis, on leur a... N'importe qui, tout le monde qui était là, leur a prêté un manteau, leur a donné un téléphone pour appeler. Il y a même des taxis qui les ont pris, qui les ont emmenés gratuitement chez eux où ils voulaient aller.
Parce que là, plus rien n'existe. Enfin, c'est une solidarité où tout le monde se resserre, tout le monde est gentil.
Mais c'est la même chose pour la Syrie. Ouais. Il n'y a plus d'État, c'est le chaos. Mmh. Mais je pense que la gentillesse, elle est là, et qu'un père va aider un enfant, et qu'un enfant qui n'est pas le sien, un autre, l'altérité. Et donc, je pense que cette libido suavitatis, elle est le fondement de nos sociétés. Après, on peut faire de la politique, on peut faire des projets, mais même quand tout ça disparaît, il restera la gentillesse.
La question, c'est, est-ce que tout le monde est capable, puisqu'on a, encore une fois, la semaine dernière, parlé de l'intelligence émotionnelle, et on a vu que selon les individus, évidemment, elle varie. Donc tout le monde n'est pas capable de gentillesse, de percevoir, d'avoir envie, d'avoir cet élan.
Ouais, c'est une bonne question. On est égaux en rien, en fait. Vous savez ce que disait Churchill de la démocratie, hein. C'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Mais je pense qu'on est inégaux. Mais quand vous dites qu'on n'est pas tous capables de gentillesse, je pense que même des autistes sont capables. Il y a une éducation qui est possible. J'ai fait un test sur des gens, alors en quantité limitée, mais ça m'a quand même frappé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image il y a 3 ans. Qui se passe en Chine et qui a été filmé, d'un chauffeur de camion qui écrase une petite fille. Il le voit dans son rétroviseur, il fait marche arrière et il l'achève. Et c'est filmé par des caméras sous le pont. Évidemment, c'est une image qui a choqué, mais il y a une raison, entre guillemets, qui est pas une preuve d'intelligence émotionnelle. Mais en Chine, si vous tuez quelqu'un, je crois que vous devez lui verser $1000. Si vous le blessez, comme il n'y a pas de sécu, vous devez prendre en charge les soins. Quand vous blessez gravement, évidemment. Donc il a voulu faire des économies. Et j'ai montré cette image à plein de gens, des jeunes, des vieux, des moins jeunes, des hommes, des femmes. Et les réactions étaient très différentes. Il y en a qui riaient en regardant. C'était une scène réelle, hein, de voir la petite fille de 3-4 ans écrasée, ou 4-5 ans. Parce qu'il y en a qui sont tellement plongés dans les jeux vidéo que, de toute façon, c'est de l'image. C'est une image de plus qu'ils voient. Il n'y a pas cette empathie vers la réalité. Et j'ai essayé de leur expliquer en disant, attendez, vous êtes habitué à faire des jeux vidéo, à tuer 100 personnes dans votre jeu pendant une heure, mais là, c'est pas une image que vous voyez, c'est l'image d'une réalité. Et donc, c'est difficile. Donc, ce capital d'empathie, on n'est pas égaux, on est tous inégaux en plein de choses, et c'est bien comme ça. Mais par contre, il peut y avoir une éducation, un partage, une discussion pour ramener les gens vers la plénitude. C'est-à-dire que je crois que quand on n'a pas ce capital d'empathie, on est plein de soi, on est dans le tout à l'ego, et que s'y intéresser, c'est peut-être se construire en déconstruisant son ego, mais en se construisant comme métier à tisser et capacité à nouer des liens et à s'enrichir de ce nœud, de ce terreau d'humanité qu'on est seul capable de créer si on s'y intéresse pas, sinon on est enfermé en soi.
Et pour développer justement cette gentillesse, petit cahier d'exercices de gentillesse paru aux éditions Jouvence, je développe mes potentiels.
Une édition suisse entre parenthèses.
Une édition suisse, évidemment. Et on va y revenir justement après. Slow Joe and the Ginger Accident, You Don't Have to Tell Me. Un choix de François Piton, de la musique et de la gentillesse encore après jusqu'à 14h. Vous êtes prêts? Et c'est tout de suite.
You don't have to tell me. You don't have to tell me what I have to do. You don't have to tell me. You don't have to tell me who I have to be. I'm free to live. I'm free. I'm free to say goodbye. Don't want to sing for them. Don't want to sing for you. Only want to sing for me. Don't try to make me change. Don't try to make me bend. Only want to sing for me. You better get something straight. I've been living all these years by myself. Sometimes it hurts so badly. We got handkerchiefs. I can't really figure out how it all went wrong. I wish I knew what bliss is. I wish I knew. Don't want to sing for them. Don't want to sing for you. Only want to sing for me. Don't try to make me change. Don't try to make me bend. Only want to sing for me. It's hard to live. It's hard. It's hard to give. It's hard to say goodbye. Don't want to sing for them. Don't want to sing for you. Only want to sing for me. Don't try.
to say goodbye.
Emmanuel Jafflin, philosophe, est notre invité jusqu'à 14h. Nous parlons de la gentillesse. Vous faites énormément de conférences, vous y avez beaucoup d'écrits. Vous intervenez aussi en entreprise, on en parlera tout à l'heure, parce que vous aidez. Alors dans le milieu des entreprises, mais on va parler déjà du général et du concernant pour tout un chacun, vous plaidez pour le développement de la gentillesse et on se disait, mais on n'a pas tous le même capital justement. Alors maintenant, comment s'exerce-t-on pour développer sa gentillesse? Il y a vraiment des trucs?
Déjà, il y a un barrage linguistique, puisque comme vous le savez, le mot, il est synonyme de faiblesse mentale. Donc, faire comprendre aux gens que c'est dans ce don, c'est dans ce partage, c'est dans ce lien qu'on s'élève. Moi, j'aime bien l'image médiévale qu'on va pas pouvoir voir à la radio, mais je vais le faire devant vous. Vous vous mettez à genoux comme un jeune chevalier qui va être élu chevalier avec le plat de l'épée sur l'épaule. Et c'est une mécanique d'ascenseur. C'est-à-dire, quand vous vous mettez à genoux, c'est que vous rendez service à quelqu'un, vous aidez une vieille dame à traverser la rue, vous aidez un aveugle à marcher, vous renseignez un touriste. Quelque part, vous vous abaissez, vous arrêtez dans votre cheminement de piéton et quelque part, vous vous abaissez et c'est le regard de l'autre qui va vous relever. Si vous expliquez ça quand même aux gens, que c'est dans ce temps que vous consacrez aux autres que quelque part vous allez vider votre vacuité et vous allez commencer à vous remplir pour ensuite pouvoir redonner, je pense qu'on arrive à convertir les gens. Mais
déjà première chose, donc balayer les idées reçues, ce que vous avez
déjà,
fait,
déjà montrer que gentil voilà. A une belle racine et que cette racine à la fois fait grimper le tronc, pousser des branches, des feuilles, des fleurs, et quelque part on fleurit quand on est gentil et ça se sent, je dirais même à l'odeur. Les gens qui sont gentils, je dirais que ça se sent. Vous parliez d'intelligence émotionnelle, hein, j'adore. Je préfère ça à la raison cartésienne. Et je pense que c'est un moyen de convertir les gens. Mais puisqu'on parlait de l'entreprise, j'étais très surpris, moi, que les entreprises m'appellent dès mon premier livre. Et c'était des grosses boîtes, je me disais. Et en fait, on est en train de changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on était dans des sociétés très verticales. On est dans une société qui se démocratise d'une nouvelle manière par les jeunes, qui sont en voie de raréfaction, hein, puisque la démographie s'effondre. Mais du coup, la Y Generation, hein, les Young, eux, ils rentrent plus dans ces modèles-là, ces modèles verticaux. Et quelque part, la gentillesse permet de modifier les RH, hein, les ressources humaines, et de se dire, bon, la verticalité avec toutes ces consignes, avec tous ces impératifs, avec tous ces objectifs, c'est bien pour la marge de l'entreprise, mais il faut faire autre chose pour que les gens s'y sentent bien.
Mais pardon, Emmanuel Jafflin, je ne suis pas...
Vous êtes pardonné, d'emblée.
Je ne suis pas aussi confiante que vous, parce que c'est vrai qu'on entend des cadras ou des cas, dire que ces jeunes...
Ils sont plus dans la Y Generation.
Alors justement, mais dire justement que ces jeunes qui sortent des écoles, qui arrivent tout frais, gonflés comme tout, veulent tout restructurer, veulent... Enfin, ils sont pas tous, extrêmement gentils, les jeunes, les Young.
Ah non, mais je suis complètement d'accord avec votre ami et avec ce que vous me dites. Mais c'est justement pour ça qu'on fait intervenir la gentillesse. Parce qu'ils sont dans une autre logique qui est plus informelle. En même temps, il y a beaucoup de jeunes qui, ne supportant plus l'autorité, mais n'étant pas empreints de gentillesse, cherchent des idées. Et les quadras, les quinquas, moi je suis dans la génération des quinquas, ils sont obligés d'être dans l'écoute, donc dans l'empathie. Et c'est pour ça qu'elle est fructueuse en entreprise, parce que l'empathie, la priorité était économique autrefois, et on mettait pas du tout le ton, à part sous le biais du paternalisme, mais sur les relations humaines. Et puis il y avait de l'embauche. Aujourd'hui, l'embauche est moindre, les jeunes sont moindres, mais sont plus exigeants. Et de dire aux jeunes, on vous écoute, on vous attend, mais soyez plus fructueux, même si c'est plus ponctuel. Et voilà ce qui fait la nouveauté de la gentillesse, c'est que, un, le mot est positif, et deux, on est dans une nouvelle société, plus ponctuelle, et donc l'impressionnisme, c'est de plus croire que par la verticalité, par la systématicité, on va y arriver. Moi, je dis la gentillesse, c'est plutôt une vertu systémique. Vous savez, le systémique, c'est de montrer que dans la relation, une cause peut avoir des effets qu'on ne comprend pas. René Thom disait ça, le mathématicien.
Les ailes de papillon.
Mais ouais, le vol de papillon au Guatemala, ça peut modifier les cours de la bourse. Mais quand vous êtes un consultant, quand vous êtes un trader, vous regardez pas les cours de la bourse sous cet angle et vous êtes très surpris qu'il y ait un cours qui s'effondre ou au contraire qui monte, parce qu'il y a des paramètres qu'on peut pas prendre en compte. Et la gentillesse, c'est un de ces paramètres discrets qui n'est pas quantifiable. On peut pas le présenter comme ça aux gens, mais il y a un retour sur investissement pour l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble de la société et pour soi-même qui est très fructueux. Je vais vous donner un exemple si vous me laissez le temps, Florence.
Oh, je vous laisse tout le temps du monde.
D'un chef d'entreprise. Alors ça se passe en Norvège. Et l'homme, en Norvège, vous allez me dire, c'est un peu redondant, mais il est patron d'une entreprise qui fait des chambres froides. On est le soir en Norvège, c'est-à-dire en janvier, il est 14h30, tout le monde est parti, et lui se dit, tiens, faut que j'aille vérifier mes chambres, il y va, il ouvre une porte, la porte se referme, claque, et il se dit, ça y est, je suis cuit. Enfin, cuit, c'est pas le mot, à moins 70 degrés, mais il va finir. Donc, il se met dans la position fœtale et il sait qu'il va mourir. Et au bout de 20 minutes, ou 25 minutes, la porte s'ouvre. C'est son gardien qui vient lui ouvrir. L'homme qui était à l'entrée, qui l'emmène dans sa guérite, qui lui donne une couverture, qui lui sert un café ou un thé. Et au bout d'un moment, quand le patron a vu son cerveau se décongeler, lui dit, mais Hans, comment vous avez su que j'étais là? Et Hans lui dit, ah mais je savais pas du tout que vous étiez là, mais ça fait 20 ans que je travaille pour vous. Ça fait 20 ans que vous me dites bonjour le matin, qu'on discute, que vous me dites au revoir le soir, qu'on fait un point sur des anecdotes. J'ai vu tout le monde partir, j'ai vu votre bureau éteint, je vous ai pas vu passer, je suis allé à votre recherche, j'ai vu le voyant rouge sur la porte de la chambre froide, j'ai compris que vous étiez là, j'ai ouvert et je vous ai trouvé. Elle est là, la gentillesse. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit pas quantifier, qu'on doit pas mesurer, mais il y a un retour qui est énorme pour nous, pour la sociabilité. Et pas pour l'ego, justement, mais pour ce pouvoir qu'on a, qui est justement pas celui de tisser notre ego.
Et j'ai envie de dire que dans le milieu de l'entreprise, il y a aussi des vertus économiques à la gentillesse, parce qu'on sait clairement que, voilà, les burn-out, les choses, les décisions.
Les burn-out, hein, voilà, les gens s'ennuient.
Exactement.
Ouais.
Et ces décisions qui tombent de nulle part, et ces rapports de conflits entre collègues, etc., ne mènent à rien, si ce n'est à des catastrophes.
Alors ça, on est en train de le comprendre. On est en train de le comprendre parce qu'on s'aperçoit, mais en même temps, vous savez, en 2012 est sortie une analyse sociologique canado-américaine, enfin anglophone en tout cas, il y avait une université américaine et deux canadiennes, dont l'abstract, c'est-à-dire le résumé de la thèse, c'était 12 nice guys finish last. Est-ce que dans l'entreprise, le gentil garçon, c'est pas celui qui finit le dernier? Et le résultat, c'était que pour les femmes, ça joue pas tellement. C'est-à-dire, mesdames, au travail, que vous soyez méchante ou gentille, la différence est pas très grande. Si vous êtes méchante, vous ne gagnerez que $300 de plus par an. Honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup de se comporter de telle manière pour si peu d'argent, hein. Ça fait moins de $30 par mois. Par contre, chez les hommes, c'est intéressant d'être méchant parce que vous gagnez $7,000 de plus. C'était une étude sur 10 000 personnes et sur 10 ans.
Pardon, $7,000 par an?
Ah oui,
si
ça vous fait réfléchir. Hein, vous...
Ah mince.
Et en réalité, j'étais interviewé sur cette analyse qui venait de tomber et je dis, c'est très marrant parce que les sociologues sont à la remorque d'une idéologie et surtout du darwinisme, c'est-à-dire le struggle for life, l'idée qu'il faut combattre pour assurer sa survie. Et ça marche pas dans la nature. Hein. On est en train de s'apercevoir que dans la nature, il y a des relations empathiques au sein d'une espèce, mais entre espèces. Je me rappelle de cette image que j'ai vue il y a un an. C'était une vidéo, mais c'était un grand singe qui avait vu un oiseau tomber, qui l'avait ramassé, alors qu'il n'était pas chirurgien, il n'avait pas compris que l'aile était cassée, mais il soufflait sur sa main pour aider l'oiseau à redécoller. Vous dites, quand il y a ça dans la nature, le darwinisme dans l'entreprise peut sortir. C'est mort, c'est fini. Et alors, je disais, le méchant donc qui a gagné $7,000, il ne faut pas croire qu'il est méchant que dans l'entreprise. Donc il va l'être dans la rue, donc il va froisser de la carrosserie. Certes, il a une assurance, mais il va froisser de la carrosserie aussi au domicile, donc il va divorcer, etc., etc. Donc il les perd. Et si on revient dans l'entreprise, le méchant, vous l'avez compris, c'est celui qui est le moins intelligent au fond, qu'on valorise. L'entreprise valorise le moins intelligent. Celui, en tout cas, qui a l'intelligence émotionnelle la moins grande. Et donc, il y a des gens qui sont supérieurs.
Des killers.
Oui, et il y a des gens qui lui sont supérieurs en intelligence, en capacité, qui vont se dire, on valorise celui-là, donc qui vont lever le pied. Donc, c'est une faillite pour l'entreprise à moyen terme, pas à court terme. Et puis, il y a ceux qui vont faire du burn-out, du bore-out, et l'entreprise va devoir les remplacer, s'occuper d'eux, filer des primes, etc. C'est un coût.
Énorme.
Mais oui. Donc, on se dit que quand on cultive la gentillesse en entreprise, c'est plus informel que le management anglo-saxon, qui est un management très typé, très formaté, avec des règles, avec une hiérarchie, avec des N+12 et des N-50, avec toute une hiérarchie. Mais en réalité, cette informalité, elle marche et elle est fructueuse. Et c'est pour ça, je pense, que les entrepreneurs commencent à s'y intéresser.
Vous allez d'abord leur parler et ensuite, quoi, vous les écoutez?
Il y a toutes les formules. On fait même ça en marchant. Vous savez, nous, on a un candidat en France qui a volé une expression à un philosophe de l'Antiquité qui s'appelait Aristote en marchant. Ça s'appelle les péripapéticiens. Hein. On fait cours en marchant. Aristote faisait ça dans son école. Il y avait des cours exotériques, c'est-à-dire réservés au grand public, et puis il y a des cours ésotériques, et là on pensait en marchant, parce que ça aère le cerveau, etc. Moi je peux faire ça en entreprise en marchant, mais on fait aussi des ateliers avec des exercices que je donne, notamment dans le petit cahier d'exercices de gentillesse, mais aussi la conférence type avec des formats, ça peut être plusieurs heures, mais ça peut être 45 minutes, et puis un débat. Et moi ce que j'aime, et ce que j'apprends, parce que
vous en prenez plein la tête, j'imagine, mais
moins que sur la punition, honnêtement, sur la punition, ça finit toujours à un lynchage de l'orateur et du philosophe. Alors que dans La Gentillesse, on arrive à un consensus, mais j'ai des objections qui sont très intelligentes et très intéressantes. Par exemple, un jour, un manager me dit, moi, je vous ai écouté, il travaillait dans la grande distribution. Et il me dit, moi, c'est fini La Gentillesse. Pas parce qu'il m'avait écouté, mais parce qu'il l'avait pratiqué, parce qu'il avait un naturel empathique et qu'il trouvait ça incompatible avec son métier. Ben, je lui dis, racontez-nous. Donc, il racontait à 300 de ses collègues, dans un amphi.
Comment il avait été gentil? Comment il avait été floué?
Il me dit, écoutez, un jour, à 11h, une caissière vient me voir, donc dans la grande distribution, et me dit, Franck, est-ce que je peux rentrer? L'école de mon fils, donc l'école maternelle vient de m'appeler, mon fils vomit partout, ils savent pas quoi faire. Le Franck, il est lui-même père, donc il est empathique, il dit, bah oui, rentre, on va fermer une caisse, les gens feront plus la queue, c'est mauvais pour nous, mais rentre. Donc, voilà, il fait ça, il peut pas la remplacer. Le lendemain, elle revient, elle prend sa caisse, et elle retourne le voir à 11h, elle lui dit, Franck, écoute, c'est la voisine qui garde, mais la voisine part travailler à midi, je dois rentrer. Et là, il se dit, plus jamais je ne serai gentil. Et je dis, elle est là votre erreur, Franck. Je vous ai dit, c'est une morale du pouvoir. C'est-à-dire que quand elle est venue vous voir la première fois, vous lui dites, ok, tu rentres chez toi aujourd'hui, mais tu prévois pour demain, parce qu'il va pas être malade qu'une journée, ton fils, tu prévois pour demain de quoi te remplacer, et demain, tu ouvres ta caisse. Et donc voilà, ce qui fait que la gentillesse en entreprise, en écoutant les autres, j'apprends autant qu'eux, on échange. Moi, je viens pas du haut verticalement pour balancer la bonne parole philosophique. Non, non, c'est un échange perpétuel et je m'enrichis.
Ça nous amène à la notion de risque, parce que je pense que beaucoup de personnes se retiennent, entre guillemets, par peur de se faire avoir. Parce que dans la notion de gentillesse, peut-être que même de manière inconsciente, il y a peut-être une attente quand même d'un retour. On n'a pas compris que cette gentillesse, elle était bonne pour nous, quand bien même il n'y a pas un retour.
Ouais, c'est une bonne question ça. Mais moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un investissement, mais il faut pas attendre un retour sur investissement.
Voilà.
On investit surtout dans notre capacité qu'on a à donner. Il est là le vrai retour. Mais je ne pense pas du tout qu'il faille être gentil. Vous savez, il y avait ce film canadien avec un petit enfant qui s'appelait Trevor. Le nom du film m'échappe, mais il a un titre anglais et il a un titre français. Et le gamin a un père qui est alcoolique et qui tape, et l'enfant et la mère. Et la mère travaille dans un bar interlope la nuit. Et le jour de la rentrée, le prof sait pas trop quoi dire aux mômes, et il leur dit, écoutez, revenez demain avec chacun une idée pour changer le monde. Et donc, il y a un petit Canadien qui force un peu sur les graisses et les sucres, qui est donc bien rond, et qui dit, voilà, moi j'ai une idée, il va au tableau, si tout le monde saute au même moment sur la Terre, on va changer l'orbite de la planète, ça mettra fin au réchauffement climatique. Tout le monde l'applaudit, retourne à sa place, le petit Trevor vient au tableau. Il fait un schéma sur le tableau noir ouvert. Il dit, voilà, si moi je suis gentil avec trois personnes, que ces trois personnes ont l'obligation d'être gentilles avec trois personnes, au bout du compte, l'humanité deviendra plus humaine, deviendra plus noble, deviendra plus gentille. Mais surtout, ce qu'a appliqué le petit Trevor, c'est la pyramide de Ponzi, ce que faisait Madoff. C'est-à-dire que le dernier entrant donnait de l'argent au premier arrivé, et c'était un système factice. Et moi, je dis, c'est une morale du pouvoir, pas du devoir. Donc le risque, il est surtout dans l'expérience qu'on va faire de se libérer de son ego. Ça, je suis d'accord avec vous, c'est le vrai risque. On est tellement attaché à notre ego que ce détachement que la gentillesse peut provoquer, c'est un risque auquel on n'est pas tous prêts, quelles que soient nos cultures. Mais c'est plus un problème psychopathologique qu'un problème culturel. Parce que je pense que la quantité de gentillesse, elle est la même dans tous les pays, mais elle ne s'affiche pas de la même façon.
Clarica, le bout du chemin, c'est une chanson de Mathieu Bogart, choisie par François Piton. Avant d'ouvrir la dernière page, les dernières pages des cahiers Éloge de la gentillesse, on mettra les références d'ailleurs, et puis votre site, parce que vous avez un site et un blog très actif, Emmanuel Jafflin, notre invité philosophe. On se retrouve dans quelques minutes.
Est-ce que tu veux bien marcher avec moi? Est-ce que tu veux bien marcher sur cette voie? Est-ce que tu veux bien me suivre pour une fois? Le même chemin, le même endroit. Est-ce que tu veux bien franchir cette ligne? Est-ce que tu veux bien me voir quand je fais des signes? Est-ce que tu voudrais encore que je t'accompagne? Est-ce que tu veux qu'on se rejoigne? Baby, do you understand? Maybe it's not the end. Ce bout de chemin, il me semble, on pourrait peut-être bien le faire ensemble. passion, main dans la main, avec moi pour toujours. Cette fois, ne plus jamais faire demi-tour. Baby, do you understand? Maybe it's not the end. Ce bout de chemin, il me semble, on pourrait peut-être bien le faire ensemble.
Emmanuel Jafflin, nous continuons jusqu'à 14h, encore quelques minutes, nous parlons de la gentillesse. On a parlé de la gentillesse en entreprise et je me demandais si finalement il pouvait y avoir, parler de Janus, est-ce qu'il peut y avoir deux visages, c'est-à-dire quelqu'un qui soit gentil en entreprise et méchant, soyons caricaturaux, à la maison. Ouais. Est-ce que cette gentillesse finalement nous accompagne toujours ou cette méchanceté, si on peut imaginer que c'est le contraire, nous accompagne toujours ?
C'est une vraie question. Alors moi, j'ai troussé trois couples antinomiques. Donc on opposait le noble et l'ignoble, vous l'avez compris, donc c'est lié à la naissance. Ensuite, le bon et le méchant. Donc on prie, le bon c'est celui qui donne et le méchant c'est celui qui prend. Mmh. Et aujourd'hui, on est dans une société très nouvelle, parce que trouble. Et effectivement, il y a des gens qui se font passer pour gentils et qui ne le sont pas. Et ça, ça a un nom, ça s'appelle le cynisme. Et il y a beaucoup de gens, autrefois, je sais pas, moi, dans les années 80 même, Tapie, il tapait sur la table, il y allait franco, il rachetait une boîte, il licenciait. Aujourd'hui, il y en a qui continuent à le faire, mais avec un emballage, avec une présentation doucereuse.
On ose moins.
Oui, on ose moins et on déguise plus, surtout.
Oui, c'est ça.
Et donc, dans un premier temps, je dirais que c'est difficile de savoir si la personne qui est douce avec nous, elle est gentille ou elle est méchante. Et le cynique, je pense que c'est la nouvelle donne qui monte, c'est que pour dissimuler sa méchanceté, parce qu'on est dans une société plus douce, les démocraties, le soft power, enfin tous ces paradigmes qui arrivent dans nos sociétés où on ne fait plus la guerre, où l'individu est le centre, on dissimule, et ça, c'est ce que j'appelle le cynisme. Alors maintenant, celui qui serait gentil au travail et méchant à la maison...
Oui. Ou l'inverse, hein.
Oui, mais c'est un faux gentil, de toute façon, au
c'est
travail.
C'est un faux gentil, voilà.
S'il n'y a pas ce continuisme, même si je dis que c'est, on n'a pas tout le temps à être gentil. Mais, moi, mes filles me disent, de toute façon, toi, t'es pas gentil. Alors, je rassure les auditeurs, hein, elles ne m'ont pas lu, 13 et 16 ans. Mais en même temps, elles n'ont pas compris que j'ai mon job de père à faire et que mon but, c'est pas d'être gentil dans la famille, c'est autre chose. Et quand elles me prennent pour méchant, en réalité, je suis plein de sollicitude parce que j'imagine leur avenir, j'imagine des conséquences qu'elles ne voient pas parce qu'elles sont dans l'instinct, dans le plaisir immédiat. Donc la sphère familiale, c'est effectivement un bon lieu de réflexion avec un X et avec CT, parce que c'est réfléchissant aussi parce que ça nous renvoie une image, mais on se dit en franchissant la porte de la maison, je suis toujours dans l'empathie, mais elle va pas avoir la même forme que dans la rue. Vous savez, en philosophie, chaque philosophe avait un territoire sur lequel il créait une école. Par exemple... Platon, c'est l'académie, Aristote, c'est le lycée, Épicure, c'est le jardin. Hein, c'est sympa, le jardin. En même temps, c'était quelqu'un de maladif et de triste, enfin bref. Les stoïciens, c'est le portique, c'est-à-dire c'est l'entrée de la ville. Hein, là, aujourd'hui, où ça grouille, c'est les gares, ou les aéroports moins, mais les gares dans nos sociétés modernes, là où il y a des inputs et des outputs. Et moi, je dis, le territoire de la gentillesse, il est double. C'est la rue et c'est l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait de l'étrangeté. Il ne faut pas que ce soit le même ADN. Alors vous allez me dire, dans la famille, le conjoint, c'est pas le même ADN. Non, mais c'est ensuite à travers les enfants pour en faire un commun. Donc on exclut la gentillesse de ce territoire-là. Mais partout où il y a de l'altérité, aussi petite soit-elle, c'est-à-dire dans des entreprises familiales, il faut quand même qu'il y ait des salariés qui appartiennent pas à la famille, sinon on n'y pratique que la sollicitude.
On dit beaucoup aux enfants, sois gentil.
Non, moi, je le dis à mes filles, mais pas avec moi, qu'elles soient gentilles à l'extérieur.
Voilà.
Mais vous parliez du risque. ce qu'on risque, c'est se détacher de son ego. On est tellement dans une société construite autour de l'ego que c'est un vrai risque. Et c'est une des raisons de la résistance à la gentillesse. C'est que par définition, celui qui va donner va se détacher de ce truc poisseux qu'on a inventé, qui n'existe pas dans plein de langues, tout simplement parce que dans de nombreuses langues, le pronom personnel « je » n'existe pas. Et moi, je me rappelle être allé un jour visiter les Indiens Kuna pour réfléchir sur la punition. Les Kuna ou les Guna au Panama. Que les Espagnols ont expulsé des collines et des montagnes, ils sont réfugiés sur des petites îles, ils sont 75 000 encore, qui culminent à 30 cm. Donc ils savent que le niveau de la mer montant, ils vont devoir revenir dans le territoire. Bref, et donc je suis accueilli par un homme là-bas qui est pas un chef, et je lui dis « Pablo, tu fais quoi toi dans ton village ?» Il me dit « C'est quoi ta question ?» Bah, je lui dis, toi, Pablo. Il me dit, Pablo, c'est que mon nom pour toi et les touristes. Mais, en réalité, moi, je suis à la fois, le chaman, le père de famille, le fils de, le cousin de, etc. Et il se présentait comme un réseau, mais non pas du network, mais un réseau familial, villageois, ethnique, mais cosmique aussi. Là, comme il était chaman, il avait évidemment des relations avec les arbres, avec les plantes, avec la nature et avec les morts. Et donc je me suis dit, ça déjà, quand je pénètre là-dedans, c'est quand même vachement plus riche que de parler à un moi, à un ego, qui est une boursouflure de quelque chose d'atomistique et d'atomisé dont il n'a pas conscience. Donc le risque, il est là. Et c'est pour ça qu'on n'accueille pas la gentillesse, parce que ça voudrait dire qu'on est dans la déconstruction de l'ego. Et dès qu'on est gentil, on le sent, qu'on se vide de soi-même et qu'on donne.
Vous aimeriez que la gentillesse devienne un concept ?
Bah, c'est un peu le boulot du philosophe, c'est la bonne question. En même temps, je voudrais pas que ce soit une norme. C'est-à-dire, quand je vais dans toutes les entreprises, et puis j'ai des camarades qui sont pas des rivaux et des concurrents, puisqu'on travaille ensemble, mais Great Place to Work, c'est l'idée d'habiller une entreprise à partir de 58 critères pour changer les relations, et ça marche bien. Et l'entreprise, c'est des grandes entreprises à qui on fait ça, mais qui font rentrer tous les RH, toutes leurs ressources humaines dans des paramètres qui améliorent l'atmosphère, sont labellisés, et sont un endroit agréable, Great Place, un endroit noble et digne.
C'est pas seulement une jolie cafétéria, on est d'accord.
Non, on est d'accord. Moi, ce que je dis, c'est que la gentillesse, c'est une formule plus informelle. C'est pas une formule qui doit être formatée, stéréotypée, quantifiée et mesurée. Donc, la résistance et le mystère de l'entreprise, c'est que l'entreprise fonctionne de manière très rationnelle. Et donc, l'idée de la gentillesse, c'est de leur rénover l'esprit en disant, la gentillesse, elle amène de l'égalité. Par exemple, la bienveillance. Il y a beaucoup de RH qui m'ont dit la veille d'intervenir dans une grande boîte, laisse tomber la gentillesse sur les papiers, on va pas mettre ça. On va dire que tu interviens sur la bienveillance, mais après, tu fais ta conférence sur la gentillesse. Parce qu'il y avait cette pudeur et ce risque que vous, elle a pas bonne presse. Mais la bienveillance ne peut fonctionner que dans un organigramme. Moi, je suis bienveillant avec mes filles. Elles ne le sont pas avec moi. Un maton ou un surveillant en prison, il est bienveillant avec le détenu, mais le détenu peut pas être bienveillant. La bienveillance suppose une hiérarchie. Alors que la gentillesse casse la hiérarchie ponctuellement. Pas pour mettre l'entreprise à terre ou l'organigramme à terre, mais simplement pour dire, voilà, quelle que soit ma fonction, je suis capable de vous rendre service. Et c'est ça qui fait la dynamique et la positivité dans les RH de la gentillesse.
Petit cahier d'exercice de gentillesse, ça c'est si vous voulez vous y mettre concrètement, Emmanuel Jacquelin.
Ah oui, c'est que des exemples et des dessins. Le dessinateur est super.
Paru aux éditions Jouvence. Éloge de la gentillesse, petit éloge de la gentillesse, ça c'est une version courte.
Ben oui.
Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, ce fut un moment de partage fort aimable. Ça va avec la gentillesse aussi.
Vous êtes gente dame, je l'avais dit, mais je confirme, vous repartirez avec un parchemin.
Merci Emmanuel Jacquelin.
No catch, no strings, none of the usual things. I'm happy just to lay and look. Let's throw out the book. Now we're to me.
Nice to me, c'est Rummer pour se quitter. Merci de nous avoir écoutés. Merci de réécouter sur le site internet. Si vous avez manqué le début, vous pouvez le faire. RTS.ch sur la page d'Egosystème et de transmettre l'émission via les réseaux sociaux. Ne vous gênez surtout pas. Nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine sur ces mêmes ondes. Quelques merci à François Piton et Alexandre Lemierre pour la réalisation de cette émission. Prenez soin de vous. Sur la première, il est déjà 14h. Bye bye.